Je vous propose de préfacer notre première séance par la lecture de quelques versets du psaume 78. Il déroule devant nous la perspective des générations qui se succèdent et de l'importance de garder la mémoire des actes passés, de considérer l'histoire selon sa continuité. Donc je vais lire les 7 premiers versets du psaume 78. Alors comme je le fais assez souvent dans les classes, je pense que ça a certains avantages, je vais, annonner une traduction littérale qui vous permet de vous rendre compte un peu mieux de ce qu'il y a dans l'original. Éventuellement, je fais un petit commentaire. C'est quelque chose qu'on peut faire en classe, qu'on pourrait guère faire en chair, mais c'est un des avantages de la situation familière où nous nous trouvons. Donc, psaume 78, poème didactique, c'est ce terme qu'on rencontre dans l'intitulé d'un certain nombre de psaumes, est littéralement un participe qui signifie « rendant sage ». Alors apparemment, c'est utilisé pour un morceau de poésie dont les fins sont d'abord d'enseignement. A ou de Asaph, c'est-à-dire du recueil qui porte le nom d'Asaph. Prête l'oreille, mon peuple, à mon instruction. C'est le mot Torah, le mot instruction. On le traduit très souvent loi, mais le sens premier est celui de directive ou de discours qui indique la direction. Et donc la traduction loi peut faire déraper notre compréhension un peu trop du côté juridique. Il y a d'autres mots qui évoquent davantage le juridique dans l'Ancien Testament. Mais ce mot-là, Torah, la Torah de Moïse, veut d'abord dire l'instruction. Et donc je le traduis là, mon instruction, ce n'est pas Moïse qui parle, mais le poète lui aussi propose une instruction de la part de Dieu. Inclinez votre oreille aux énoncés de ma bouche. J'ouvrirai la bouche avec... Alors là, le mot est un mot très intéressant dans l'Ancien Testament. Vous voyez, ça me donne l'occasion de faire des petits commentaires comme ça. C'est le mot qui est utilisé pour le titre du livre des Proverbes. C'est ce mot qui, au pluriel, sert de titre pour les Proverbes. Mais il est aussi souvent traduit parabole. Et généralement, dans les traductions ici, on a parabole. Et dans la citation du Nouveau Testament de ce verset, qui est considéré comme accompli en Jésus, c'est le mot parabole qui est employé. C'est à propos de l'enseignement par le moyen de parabole de Jésus que la citation nous est faite. Et le mot en lui-même a un sens plus large que parabole ou que proverbe. C'est un peu toutes les formes d'un discours qui n'est pas simplement le discours ordinaire, prosaïque, où l'on cherche à frapper l'imagination, à piquer l'attention. Parfois, aussi impliquer l'auditeur de telle sorte qu'ils doivent chercher le sens, qu'ils doivent décoder ce qui est un langage un peu chiffré au moins. Le domaine du machal, c'est tout ce domaine d'un langage figuré où le langage est traité de façon habile pour que la communication soit plus efficace. Donc j'ouvrirai la bouche avec parabole si vous voulez. J'émettrai des énigmes qui remontent à l'origine, littéralement depuis l'origine, depuis l'antiquité la plus ancienne. Ce que nous avons entendu et que nous avons appris, enfin littéralement, dont nous avons pris connaissance, et que nos pères nous ont rapporté, nous ne le cacherons pas de leur fils à la génération à venir. Et là, le mot pourrait être traduit la génération suivante. Le mot que je traduis à venir vient de la préposition après, ce qui vient après. Donc, la génération qui vient après. Mais il y a un mot dérivé qui est proche de celui-ci, c'est acharon en hébreu, et vous avez le substantif acharit, désigne l'avenir. S'il y a un mot en hébreu pour dire l'avenir, c'est ce mot-là. On peut aussi dire les jours qui viennent, hein, c'est les jours venants. C'est une autre expression. Mais le mot pour l'avenir est un mot proche de celui qui est employé ici. Donc, nous ne le cacherons pas de leur fils. À la génération à venir, nous le rapporterons. Les louanges du Seigneur ou de l'Éternel, sa force et les merveilles qu'il a faites. Il a dressé un témoignage en Jacob et il a mis une Torah, une instruction, une loi, oui, nouveau le mot Torah, en Israël, qu'il a commandé à nos pères pour le faire connaître à leurs fils. Alors on peut sans doute comprendre, dont il a commandé à leur père de les faire connaître à leurs fils. Afin que la génération à venir connaisse que les fils qui doivent être enfantés. Et ils se lèveront et ils en rendront compte à leurs fils. Et la vision, une sorte de cascade de génération en génération, l'enseignement que Dieu a déposé par le moyen de Moïse en Israël doit être retransmis. Et ils mettront en Dieu leur assurance. C'est un mot assez intéressant aussi, ce mot d'assurance. Il faut le traduire ici assurance, parce qu'il est pris en bonne part. Mais il peut aussi signifier la stupidité, dans d'autres contextes. Il peut signifier l'assurance excessive du présomptueux de celui qui fonce sans avoir suffisamment réfléchi. C'est intéressant d'avoir un mot avec double sens, comme nous avons ici. Mais ici, donc, c'est le sens positif d'assurance. Ils mettront en Dieu leur assurance. Ils n'oublieront pas les agissements de Dieu et ses commandements, ils garderont. Voilà une perspective qui donne une grande place au temps et à l'avenir, au passé le plus lointain, et à l'avenir également. Il nous prépare, je crois, à réfléchir sur la question qui est mise à notre ordre du jour, du temps et de l'éternité. Pour la présentation du sujet dans notre petit dépliant, j'ai choisi de rapporter un souvenir qui est un souvenir encore tout frais, qui vous a peut-être surpris, le souvenir d'une chose qu'un des théologiens catholiques les plus influents, et à mon avis vraiment le numéro un dans le catholicisme d'aujourd'hui en France, a pu dire dans une séance des conversations officielles auxquelles je participe entre les baptistes et les catholiques. Nous étions en train de discuter de la prière pour les morts et nous taquinions un petit peu nos interlocuteurs catholiques sur ce sujet, et ils en sont venus, et en particulier donc un dogmaticien fameux qui fait partie du groupe, a essayé de justifier la prière pour les morts en disant qu'ils pouvaient, avec leur notion de temps, prier pour la conversion de Hitler avant sa mort en 45, prier aujourd'hui pour que Hitler se convertisse avant sa mort, alors que tout est fait et révolu. C'est quelque chose qui fait éclater le sens commun. Il y a des auteurs déjà dans l'Antiquité qui ont souligné que ce qui est arrivé, et ne peut plus être changé, que c'est une caractéristique même du passé, de ne pouvoir être modifié. J'ai ici une petite citation que j'ai prise du poète Pindare, dans ses hymnes olympiques. Il a écrit « Rien de nos actions ne peut être anéanti, ni juste ni injuste. Le temps même, père de toutes choses, ne saurait faire qu'elle n'ait pas été accomplie. » Et malgré ce qui paraît une évidence du sens commun, il y a des philosophes, et donc des théologiens, qui ont pu aller jusqu'à dire le contraire. C'est le cas du philosophe Hegel, nous mentionnerons encore le terme, le nom, qui a pu dire que l'esprit absolu, dans son devenir, peut faire que ce qui a été n'a pas été. Non pas que les conséquences simplement sont effacées, non, que ce qui a été n'a pas été. Et l'idée de nos interlocuteurs était peut-être un petit peu différente, et encore, on est pratiquement là, à partir d'une notion de l'éternité dont nous allons bien sûr reparler, qui est assez répandue, comme quoi l'éternité ne connaît ni avant ni après, alors que nous prions après ou que nous prions avant, ça ne change rien pour Dieu. Donc, nous pouvons aussi bien prier après que prier avant pour un événement. Voilà la logique qui semblait en cause dans cette notion du temps et de l'éternité qui justifiait cette sorte de prière. Je n'ai pas été convaincu pour autant. Et le fait qu'on aboutisse à de telles monstruosités comme conséquence me semble remettre en cause cette notion du temps et de l'éternité. Montrer que vraiment c'est pas tenable. En tout cas, on ne trouve rien dans la Bible qui suggère une telle prière pour infléchir des choses qui ont eu lieu, pour modifier ce qui est révolu. Je mets au défi qui que ce soit de trouver la moindre chose dans la Bible à ce propos. Et on peut penser par exemple à David qui, une fois que le petit enfant qui est né de Bathsheba est mort, s'arrête de prier. Bon, c'est fini. Pour lui, pas question de prier après la mort de l'enfant pour que l'enfant ne meure pas, quoi. Ce qui est accompli, est accompli. Donc, je ne pense pas qu'on trouverait de justification biblique. Mais ce petit souvenir donc, qui est récent, hein, de ce qui s'est dit dans nos conversations catholiques baptistes, me semble souligner la nécessité de réfléchir au sujet. Et en même temps, la difficulté. Alors j'espère qu'il n'en a pas effrayé certains qui du coup ne seraient pas venus à l'université d'été, ou seulement la deuxième semaine. Il ne vous a pas effrayé vous, donc c'est bon, c'est bon. Vous êtes ici. Le sujet est de toute façon très, très difficile. Augustin, Saint Augustin, qui est l'un des penseurs principaux de l'histoire de la réflexion sur le temps, dit de manière qui immédiatement nous oblige à dire eh oui, quand on ne me demande pas ce qu'est le temps, alors je le sais. Et dès qu'on me le demande, je ne sais plus. Qu'est-ce que le temps? Et même, on dit le temps passe. Est-ce que c'est le temps qui passe? Ou est-ce que c'est nous qui passons dans le temps? En fait, j'ai aussi dégoté dans mon travail. J'ai travaillé pour vous, j'ai travaillé aussi pour une étude sur le même sujet que j'ai faite la semaine dernière en Angleterre. Donc j'ai travaillé sur divers auteurs et j'ai vu que l'un des auteurs chrétiens du deuxième siècle, un des apologètes du christianisme, deuxième moitié du deuxième siècle, Tatien, dans son discours adressé aux Grecs, un discours très agressif, où il attaque leur idolâtrie, les attaque aussi parce qu'ils disent que le temps passe. Et il leur dit, mais au nom de quoi prétendez-vous que le temps passe ? Vous êtes victime de la même illusion que lorsqu'on se trouve sur un bateau et qu'on quitte le quai tout doucement. On croit que c'est le quai qui bouge, alors que, en fait, on est soi-même sur le bateau en train de bouger. Eh bien, c'est la même chose avec le temps. C'est nous qui bougeons, c'est pas le temps. Voilà ce qu'il leur dit au chapitre 26 de son discours aux Grecs. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Si on dit que le temps passe, qu'il est comme un flot qui s'écoule, c'est très très souvent comme ça qu'on se le représente, dans quel sens vraiment coule-t-il? Coule-t-il du passé vers le futur ou coule-t-il du futur vers le passé? On dit que certains, on a même dit des Hébreux, mais je crois là que ce n'est pas juste, considère que c'est le passé qui est devant nous et le futur qui est derrière nous. Et c'est vrai qu'en un sens, on pourrait le concevoir. Ce que nous voyons, c'est ce qui est devant nous. Or, nous voyons le passé, mais le futur, c'est noir, le brouillard. Non, nous n'y voyons pas. Donc certains peuvent dire, c'est le passé qui est derrière nous, qui est devant nous. Ça ne paraît quand même pas très très courant. C'est dire les difficultés qui entourent la réflexion sur le temps et peut-être à plus forte raison sur l'éternité. Ce n'est pas une raison, sous cet ensemble de difficultés, pour dire bon, je laisse le sujet de côté, je vais m'y perdre, parce qu'il y a des enjeux. si on laisse dire n'importe quoi, la position catholique sur la prière pour les morts peut être justifiée. Et moi, je me suis rendu compte personnellement de cette importance de la réflexion sur le temps et du rapport à l'éternité, surtout à la lecture, quand j'étais plus jeune, mais principalement, à la lecture des œuvres du grand théologien Karl Barth. Je vais quand même rapprocher le tableau pour pouvoir mettre quelques mots. Il est peut-être dans la Bible. Mais
il est dans la bibliographie.
C'est ça. Karl Barth a été, en tout cas du côté protestant, le théologien le plus prestigieux, le plus influent, en tout cas pendant toute une période. Il a enseigné surtout à la faculté de Bâle, l'université de Bâle, faculté de théologie. Il était lui-même né dans cette ville. Et son œuvre est une œuvre extrêmement puissante. Il n'a pas défendu des positions semblables à celles que nous défendons ici. Il n'a pas été évangélique au sens où notre faculté se dit évangélique. Il a employé le mot évangélique aussi parce qu'en Allemagne, evangelisch se dit pour tous les protestants. Mais il n'a pas été évangélique à notre sens. Mais il n'a pas été non plus très, très éloigné parmi ceux qui n'ont pas les positions que nous défendons ici. Vous en avez qui sont proches et vous en avez d'autres qui sont très, très loin. Et Barth, au moins sur certains points, est pour nous un allié. Il a défendu, par exemple, il est vraiment l'un des très rares parmi ceux qui ne sont pas évangéliques à notre sens, la naissance virginale, le miracle de la naissance virginale de notre Seigneur. C'est très rare en dehors des rondes évangéliques. Donc c'est le signe de sa relative proximité. Mais en même temps, tout ce qu'il reprend et qu'il défend de manière proche de la nôtre, il le repense, il en fourbit un système nouveau. On a pu dire qu'il est capable de prendre à son compte toutes les affirmations du symbole des apôtres, croisant Dieu le Père Tout-Puissant, et que pourtant il n'y a pas une seule des affirmations de ce symbole dont il n'ait changé le sens, qu'il confesse simplement au sens qui a été le sens ordinaire pendant tous les siècles. Ça, c'est un signe de son génie, hein. Il était capable de repenser tout. Et alors, quand on s'engage dans la lecture de Barth, un jeune théologien, comme j'étais, il faut se battre. Ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter, pourquoi ? C'est une lecture très formatrice, en tout cas, j'estime qu'elle l'a été pour moi, et je me suis rendu compte que la question du temps et de l'éternité était une question clé en l'affaire. Si j'avais dû me ranger à sa notion du temps et de l'éternité, j'aurais eu beaucoup de mal à lui échapper pour tout le reste. Il a une notion d'éternité qu'il partage avec beaucoup d'autres, comme nous allons le voir dans notre petite esquisse historique dans un instant. L'idée que la succession avant-après ne joue pas pour Dieu. Du coup, à mon avis, c'est assez logique. Il considère que la différence entre la création et la réconciliation opérée par Jésus-Christ, c'est une distinction qui finalement est tout à fait relative, superficielle. S'il n'y a pas de vraie succession d'événements pour Dieu, c'est un seul et même événement. Au fond, pour lui. Ce qui veut dire, thèse qu'il a défendue, que Jésus-Christ, le réconciliateur, c'est lui le vrai premier Adam. Adam n'est qu'une image de lui. Et que tout homme par création est en Christ. Et donc, suit, ce qui est une conséquence qui apparaît pas mal des fascicules de la dogmatique de Karl Barth, tout homme est en Christ, justifié, sanctifié, qu'il le sache ou non. La conséquence d'un universalisme plat, alors tout le monde est sauvé, Barth se retient juste au dernier moment de la tirer. Mais les Barthiens, en général, eux, vont jusque-là. Mais c'est dans la logique de cette fusion entière, cette compression entre les divers actes de Dieu qui ne peuvent en constituer qu'un seul, puisque pour Dieu, il n'y a pas de succession de temps différents. La logique de Barthes m'a paru puissante, et vous vous rendez compte donc des enjeux de cette affaire. Alors vous avez vu le canevas de ce que je m'apprête à dire. Dans notre première séance ce matin, je fais un survol extrêmement rapide de un peu toute l'histoire du sujet. Éventuellement, si jamais il restait un peu de temps, je pourrais faire quelques commentaires sur la bibliographie aussi, ajouter peut-être une ou deux choses aussi à cette bibliographie. Mais il s'agit d'abord pour moi de faire ce petit survol pour que vous vous rendiez compte de la diversité des positions. Nous n'entrons pas encore dans l'argumentation. En deuxième lieu, comme vous avez vu, nous allons scruter les données de l'écriture qui paraissent pertinentes. Ce sera aussi dans le genre du survol, mais cette fois concentré sur la Bible. Puis, en troisième séance, en fin d'après-midi aujourd'hui, nous considérerons la conception classique et les arguments qu'on peut faire valoir contre elle en critique. Et puis la quatrième étude concernera la notion d'éternité, du rapport temps-éternité que je propose. Et la cinquième étude, alors, commentera la figure du temps. Mais, donc, survolons maintenant l'histoire de la réflexion sur le temps et l'éternité, avec trois grandes parties. L'antique héritage, c'est-à-dire la période des origines de la pensée humaine et de l'Antiquité, l'Antiquité jusqu'au Père de l'Église. Puis, ensuite, la grande période classique de l'Église chrétienne, avec les diverses orthodoxies, catholiques et protestantes, et enfin alors la modernité, qui va jusqu'à nous, même si certains préfèrent l'expression de postmodernité pour ce qui est en train d'émerger à la fin du XXe siècle. Alors l'antique héritage, d'abord, le premier stade observable de la pensée humaine, là, on n'essaie pas de combiner avec les données de la Genèse. Je considère les choses selon l'axe des histoires de la pensée humaine. C'est celui du mythe. Le mythe est la production caractéristique des sociétés archaïques. On le reconstitue, hein. On ne peut pas faire des vérifications absolument certaines. Mais, d'une part, en étudiant des groupes humains qui, au plan des techniques, semble être resté au stade, par exemple, des aborigènes d'Australie, ou resté au stade où se trouvaient d'autres groupes humains il y a 5000 ans, ou 8000 ans, âge de pierre, par exemple. Et en scrutant leur manière de s'organiser, et en comparant avec les documents très parcellaires, c'est des fragments seulement, qui nous sont venus de ces milliers d'années avant Jésus-Christ, ont reconstruit ce qui a pas mal de chances d'avoir été la réalité sociale, culturelle, mentale de ces groupes au stade qu'on peut observer en premier lieu. Caractérisé par le mythe, un récit qui mêle les dieux, le sacré, la nature, les humains, qui rend compte de l'ordre des choses tel que ces humains croient pouvoir le discerner, et qui fait bien plus encore, qui non seulement en rend compte, mais probablement est considéré comme fondateur. Le rite est inséparable du mythe, ou le mythe est inséparable du rite. Lorsque on récite le mythe, en ce temps-là, tel Dieu a poursuivi l'abîme, l'a partagé en deux, ça a fait le ciel et la terre, etc. On fonde, on refonde l'ordre du monde. Le fait de le dire, et de le dire dans le cadre du rite, c'est assurer la stabilité ce qui est la recherche de l'être humain dans ses conditions de vie. Il faut se rendre compte que pour le petit groupe humain dans sa forêt vierge ou dans d'autres milieux naturels quand même assez hostiles, le petit groupe, il y a lieu de céder à l'angoisse. Il y a comme des épouvantes qui rôdent alentour. Le monde est un monde bizarre, mystérieux, il arrive tout et n'importe quoi. Et il s'agit de trouver des points de repère, il s'agit de stabiliser une vie qui est menaçante à tant d'égards. Alors il y a de l'énergie sacrée, il y a du divin un peu partout. Mettons les choses en place, aménageons quelque chose de vivable par le mythe et le rite. Alors dans cette recherche de stabilité, le mythe renvoie à un temps fondateur qui ne s'écoule pas, qui est un temps de pure répétition que le rite répète. Il s'agit d'effacer l'usure du temps plus ordinaire qui passe, mais qui est uniquement vu négativement. C'est le temps de l'usure, tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse, c'est le temps qui conduit à la mort. Et donc il faut revenir à cette fixité que le mythe énonce par le moyen des rites où les mythes sont récités. Le monde de ce premier stade, c'est un monde de la répétition qui s'efforce, par opposition à un devenir insaisissable, de fixer les choses, de façon que l'humanité est encore si faible, qui a si peu de maîtrise de son environnement, puisse vivre. Alors je suis dépendant, pour cette notion que je résume, de ce premier stade, de plusieurs auteurs. Je peux signaler celui dont je vais le retirer, c'est Mircea Eliade, qui a beaucoup écrit, qui a été considéré comme, sans doute en sa génération, le numéro un sur la phénoménologie des religions, le comparatif des religions. C'était un étonnant. Romain. Il se fait déjà connaître tout jeune en Roumanie. Il écrit des romans, il écrit des relats en voyage en Inde, etc. Il passe ensuite en France. Et il a une deuxième carrière qui est française. Il enseigne à Paris, il écrit beaucoup de ses livres en français, entre autres Le mythe de l'éternel retour, divers autres ouvrages sur la pensée mythique. Et puis, il se déplace encore. Et il fait une troisième carrière à Chicago. Cette fois, il enseigne en anglais, il écrit des choses en anglais. Pour réussir ce triplé, il fallait avoir du coffre. Cet Eliade, donc, est celui qui m'a le plus instruit par ce français, parce que je ne l'ai jamais rencontré. On peut signaler que le traitement structuraliste, auquel le grand nom c'est Claude Lévi-Strauss du Collège de France, qui je crois est encore en vie, très âgé, au-delà de 90 ans, par des méthodes tout à fait différentes de celles d'Eliade, aboutit à des conclusions assez proches sur cette fonction du mythe comme tactique d'annulation de l'historique. C'est une expression que j'ai lue. Le mythe est une machine à neutraliser le temps et à stabiliser des ordres. Alors, l'accent de Lévi-Strauss serait très fortement sur les oppositions binaires qui instituent des équilibres dans le monde du mythe. Puis, parmi les philosophes qui ont repris cela, et là aussi j'ai subi l'influence, je signale le nom de Georges Büdorf, qui enseignait à la faculté des lettres de Strasbourg, lettres sans sciences humaines, pas de théologie. C'était un protestant. Il a pas mal travaillé sur la question des sciences humaines, il est assez fameux pour cette raison, mais dans un livre intitulé « Mythes et métaphysique », déjà assez ancien, il tire profit des travaux des spécialistes comme Eliade et d'autres, et il marque très très fort ce que j'ai essayé de résumer, et dans un style très brillant. Je peux, puisque on est tout au début, j'ai l'impression encore d'avoir du temps, je peux signaler sur Gusdorf des choses qu'on ne sait pas d'habitude, mais qui peuvent vous intéresser aussi. Gusdorf a fait une véritable expérience de type évangélique, de type réveil, comme dans notre histoire évangélique. C'était pendant la guerre, alors qu'il était officier prisonnier dans un camp d'officiers en Allemagne. C'est pas celui où se trouvait mon père, mais mon père l'a su par ce moyen. Il se trouvait dans ce camp, les officiers n'ayant pas à travailler, un certain nombre d'officiers qui pour un peu tuer le temps, sont dit, tiens, si on étudiait la Bible ensemble. Des universitaires qui n'avaient pas d'intérêt spirituel très marqué, qui avaient plutôt un intérêt culturel pour ce texte. Ils ont décidé de se mettre à étudier ensemble. Ils sont mis à l'étudier, et la puissance de la parole de Dieu a fait qu'il y a une sorte de réveil qui a éclaté dans ce camp. Ils étaient saisis, l'Esprit de Dieu puissamment les amenait à confesser leurs péchés, à se tourner vers le Christ. Ça a été extraordinaire. Et Gusdorf faisait partie de ce groupe. Et les autorités allemandes se sont rendues compte qu'il se passait quelque chose qu'ils n'arrivaient pas du tout à maîtriser, qu'on ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait, et ils ont préféré disperser le groupe. Et c'est comme ça qu'il y en a eu un ou deux membres qui sont venus dans le camp où se trouvait mon père, et que j'ai su l'histoire. Mais donc j'ai su que Georges Gusdorf a fait partie de ce groupe. Alors manifestement, il n'est pas resté évangélique. Par la suite, dans les années qui ont suivi, ce qui se trouve dans ses livres montre qu'il a adopté une théologie protestante, au moins semi-libérale. Donc malgré cette expérience, ça ne suffit pas à une expérience. Mais c'est quand même intéressant de savoir cela d'un homme qui est quand même assez fameux parmi les intellectuels français. Donc pour cette notion du mythe, je vous renvoie à ses auteurs. Lorsque le mythe s'enrichit, lorsque les groupes humains dont les productions intellectuelles en quelque sorte se caractérisent par la grande part que la confection des mythes y a, lorsque ces groupes humains deviennent plus nombreux, plus puissants, que leur technique évolue, qu'il y a la division du travail qui se réalise dans leur sein, c'est en particulier le cas des empires qui se constituent dans les zones les plus fertiles, avec le néolithique, avec la culture, vallée du Nil, de l'Euphrate, et sans doute aussi des fleuves d'Inde ou de Chine, avec des terres qui sont encore d'une fertilité extrême, n'ont pas été épuisées. La mythologie s'élabore, des embryons de science s'y joignent, elle s'enrichit, se démultiplie, et ce n'est plus simplement une sorte de répétition massive, on annule le temps, mais le mythe de l'éternel retour, l'idée d'une vision cyclique, que toutes choses reviennent là où elles se sont trouvées à un moment donné, c'est ce mythe qui devient très caractéristique. Et Eliade le montre très bien dans le livre que j'ai cité, qui porte précisément ce titre. Un facteur qui a beaucoup joué, c'est la découverte de l'ordre des astres. Ça a été un des émerveillements de l'homme antique. Lui qui est jeté dans ce monde imprévisible, il ne maîtrise pas, il cherche d'abord dans quelques points de repère, et puis il en vient à découvrir que cette poussière d'étoiles, etc., elle a une ordonnance qui est bien repérable pour celui qui l'a discernée, et que cette ordonnance évolue, mais revient, après un certain temps, exactement la même configuration céleste. Vous avez un mouvement circulaire du ciel qui émerveille ceux qui, en Moyen-Orient en particulier, ont généralement le ciel dégagé pour le contempler. Et la nuit, il n'y a pas encore la pollution des lampadaires. Il paraît que l'éclairage électrique de nos villes est une véritable pollution pour ceux qui veulent observer le ciel aujourd'hui. Bien sûr, à l'époque, il n'en est pas question, donc ils ont la possibilité d'admirer ce mouvement céleste, et une fois qu'ils l'ont repéré, c'est très exaltant, c'est un enthousiasmant de... Et l'image du cercle devient une image privilégiée, la perfection de l'ordre céleste. Et c'est ce que nous retrouvons alors chez les Grecs. Les racines de la philosophie grecque sont aussi dans le mythe. Le culte des Grecs est un culte qui correspond à, au retour circulaire des mêmes fêtes, où l'on dynamite des mêmes événements immémoriaux année après année dans leur culte, les Grecs à coup sûr, comme les autres peuples, ont une notion circulaire du temps. Alors on dit parfois, mais c'est peut-être un peu rapide, que c'est la notion grecque du temps qui est cyclique, c'est-à-dire circulaire. Certains auteurs, en particulier Paul Ricoeur, le philosophe protestant, c'est celui sans doute le plus fameux encore que Gusdorf aujourd'hui, du protestantisme français. Donc Ricoeur proteste contre une affirmation un peu trop rapide que pour les Grecs le temps est circulaire. Ou il faut distinguer. Pour les historiens, c'est là qu'on trouve en dehors de la Bible les premiers historiens, ce sont des séquences linéaires. C'est quand même un temps de type linéaire sur lequel il repère les événements dont il cherche la documentation, en bouchant parfois les trous de manière un peu imaginative mais plausible. Mais là, l'accent n'est pas sur la circularité chez ces historiens. Il y a sans doute tendance chez certains à un point de vue pessimiste, à savoir que dans cette succession des temps, on va vers, des formes de coexistence humaine moins satisfaisantes que celles dont les pères nous ont parlé. Les mœurs se dégradent, autrefois c'était tellement mieux, c'était pas ça de mon temps. Les jeunes, on a des textes très anciens qui parlent des jeunes d'aujourd'hui qui ont dégénéré, dont les mœurs sont absolument insupportables. Donc parfois c'est ce pessimisme qui accompagne une vision linéaire, qui ne se prolonge pas très loin. Parfois c'est la moralisation, on cherche à tirer des leçons morales, ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué. Mais enfin, il y a une perspective plutôt linéaire. Les philosophes, eux, forgent des doctrines variées, dont le dénominateur commun, c'est une tendance à dévaluer ce qui est temporel, ce qui est successif. Le premier des grands penseurs de l'être, Parménide, très fameux pour cette raison, a une audace extrême. Pour lui, il n'y a pas d'autre vérité que l'être est. Le devenir, tout ce qui se rapporte au temps, est irréel. C'est une pure apparence. Alors il est obligé de dire que nous ne pouvons pas vivre sans tenir compte de cette apparence, mais celui qui veut atteindre au savoir doit comprendre que c'est la pure apparence. Donc il n'y a même pas de mouvement circulaire du temps. Le temps est irréel, car il n'y a que l'être dans sa massivité pleine, et que symboliquement, on pourra représenter comme une sphère. Ce qui va vous intéresser, c'est de savoir que l'un des disciples de Parménide, Zénon, a inventé ce qu'on appelle les sophismes de Zénon pour prouver la thèse de son maître Parménide, à savoir que le devenir, selon le temps, est pure illusion d'optique. Et c'est l'histoire du lièvre, jamais ne pourra rattraper la tortue. Prouver Zénon. La tortue prend son départ avant le lièvre, qui musarde dans la luzerne, et elle atteint le point B au moment où le lièvre s'élance à son tour. Pour que le lièvre franchisse la moitié de la distance qui nous sépare de la tortue, il lui faudra un certain temps T1. Et pendant ce temps-là, la tortue aura un petit coup de chemin, elle aura atteint C.
pour que le lièvre franchisse la moitié de la distance qui le sépare du lièvre, il faudra fréquenter deux. Mais pendant ce temps, la tortue aura fait encore un petit bout de chemin. Elle aura atteint le pied. Pour que le lièvre franchisse la moitié de la distance N'B, pour atteindre M seconde, il lui faudra attendre T3. Pendant ce temps, la tortue aura fait un petit bout de chemin encore. Et vous pouvez continuer comme ça indéfiniment. Le lièvre se rapprochera d'infiniment près de la tortue, mais il ne pourra jamais la rattraper. Parce que pour faire la moitié du chemin qui le sépare de la tortue, il lui faudra toujours un certain temps pendant lequel la tortue ira un petit peu plus loin. Donc, disait non, je vous prouve par ce raisonnement géométrico-rationnel que le lièvre jamais ne rattrape pas la tortue. Alors, il sait très bien, Zénon, comme tout le monde, que les lièvres rattrapent effectivement les tortues. Mais il dit, voilà, je vous ai prouvé que c'est une simple illusion d'optique. Celui qui veut suivre la raison est obligé de dire, c'est simplement faux, c'est de la pure apparence. Donc, vous avez cette ligne-là dans la pensée grecque. Vous avez une autre ligne presque opposée de celui Héraclite. Héraclite l'obscur, il est très difficile à interpréter, donc on le surnommait déjà de son temps l'obscur. Héraclite d'Éphèse, il disait « Tout coule ». Résume un peu. Tout coule, tout est en flux. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ça fait partie des fragments qui nous sont restés de lui. Parce que c'est plus la même eau, tout coule. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et c'est lui qui dit « Le temps est un enfant qui joue au tric-trac, royauté d'un enfant. » Allez comprendre. Il souligne donc cette mobilité de toute chose, aucun point fixe, mais cependant, il y a une harmonie cachée. Les contraires qui se mêlent s'entremêlent toujours dans ce mouvement perpétuel composent, de façon que nous ne pouvons pas vraiment sonder, malgré tout un ordre, une harmonie. Mais ça ne veut pas dire donc qu'il y a un temps significatif. Il y a une mobilité universelle qui se désagrège dans cette multitude d'événements en sens contraire. Et c'est un ordre qui paraît, au bout du compte, stable, qui régit comme un sous-main, mais de façon cachée, cette diversité. Donc vous avez des options, vous voyez, différentes dans la pensée grecque. Alors ultérieurement, la pensée de Platon a beaucoup marqué. Vous avez le trio Socrate fondateur, Platon son disciple et le grand penseur, et puis Aristote, le successeur, le rival en quelque sorte de Platon. Platon souligne que l'éternité, qui correspond assez à l'être selon Parménide, ne passe pas, que c'est un pur présent. L'éternité ne connaît ni avant ni après, parce qu'elle est toute plénitude. Mais il ne nie pas pour autant la réalité du temps. Le temps, c'est une sorte d'image à un rang inférieur de l'éternité. Le temps est une image mobile de l'éternité qui demeure, dit-il. C'est en le timé qu'il a cette définition. Et cette image mobile a pour forme le cercle et permanente. Son disciple Aristote, plus technicien, a voulu essayer de définir le temps. Sa notion d'éternité est assez proche. Mais quant au temps, il le définit précisément comme la mesure du mouvement. Ici, il y a temps, nous disons un jour, deux jours, trois jours, c'est en fonction des révolutions, le soleil revient à la même place, etc.
nous associons le temps à la mesure. Et il définit le temps comme la mesure du mouvement. Le mot mouvement étant à prendre au sens très très large, c'est pas seulement le mouvement quant au lieu, mais tout mouvement qualitatif aussi bien. C'est presque équivalent à la notion de changement. Il faut que je me hâte. Les stoïciens école philosophique très importante, ça vient d'une partie de l'Antiquité, et c'est avec eux surtout que Paul doit discuter à l'Aréopage, en acte 17, eux, qui avaient subi des influences sémitiques, n'étaient pas vraiment originaires de Grèce, bien que parlant grec, les stoïciens avaient l'idée d'un retour cyclique, mais sur une très longue période. Ils l'appelaient la grande année, une myriade d'années, sans doute pas à prendre très littéralement, l'idée que tout doit revenir exactement comme cela s'est produit dans 10 000 ans, dans X fois 10 000 ans, Socrate à nouveau prendra son verre et dira les mêmes paroles. Tout reviendra exactement, parce que tout est déterminé. Alors si quelque chose s'est produit, c'est que le programme informatique, en quelque sorte, qui a déterminé cela, l'a déterminé, et ce programme se répète. Donc, il n'y aurait aucune raison qu'il y ait un changement. C'est l'idée de la grande année qui se termine par une grande conflagration et puis tout recommence. Ça, c'est l'idée que les stoïciens avaient du temps. Ils donnent un peu plus de consistance et de relief au temps, mais au bout du compte, il s'agit d'un grand revenir. Et je mentionne en dernier lieu, pour le côté de la pensée païenne, Plotin, le plus grand penseur du néoplatonisme, en qui l'Antiquité païenne chantait son chant du cygne, au IIIe siècle de notre ère, donc après Jésus-Christ cette fois, Plotin a réfléchi à nouveau sur la question du temps et de l'éternité. Lui aussi considère le temps comme une dégradation, il a une vision très hiérarchique à partir de l'un indicible, ineffable, qui est pure présence. Vous avez une dégradation par paliers successifs, et le temps caractérise donc des êtres qui sont inférieurs quant au niveau de leur être même. Et il critique la définition d'Aristote, c'est tout spécialement pour cela que je le mentionne, et puis j'ai une autre raison aussi. Il dit, le temps n'est pas la mesure, le nombre du mouvement, même si le mouvement n'est pas mesuré, il y a quand même dans le temps, c'est quand même dans le temps qu'il se déroule. Si nous n'avons pas le moyen, nous n'avons pas une montre, nous n'avons pas pour mesurer le temps, il y a quand même le temps qui passe. Donc il ne faut pas dire que c'est la mesure du mouvement. C'est plutôt son intervalle qui est mesuré. La seconde raison de mentionner Plotin, c'est que Plotin a eu une forte influence sur le plus grand penseur de l'Antiquité chrétienne, surtout sur le sujet du temps, Saint Augustin. Nous avons parlé déjà tout à l'heure. On a pu dire en exagérant, c'est une exagération, mais qu'il y avait eu deux conversions de saint Augustin. Une première conversion au néoplatonisme, c'est-à-dire aux idées de Plotin, et puis ensuite une deuxième conversion au christianisme. Et certainement sa pensée a été nourrie quant à la philosophie par les apports de Plotin, et sur la question du temps et de l'éternité également. Mais avant de revenir à Augustin, que j'ai prévu ici de mentionner sous le titre l'option classique, il faut quand même mentionner encore ce que j'évoque du contraste judéo-chrétien. Eliade, et c'est une des raisons pourquoi j'aime aussi le citer, a expressément reconnu le contraste très fort et tout à fait unique entre les pensées de l'éternel retour, les pensées mythiques axées sur la répétition, et ce que l'on a dans la Bible, dans la religion des Hébreux ce que nous appelons l'Ancien Testament d'abord, et dans le christianisme de manière encore plus aiguë. Eliade reconnaît que l'accent sur l'histoire qu'il y a dans la Bible, le fait que le mythe n'est pas une catégorie que l'on y retrouve vraiment, que tout est marqué par un commencement et un devenir temporel orienté, où ce qui se passe une fois pour toutes, où il y a du positif qui émerge de l'histoire, ça c'est tout à fait unique dans le champ des religions, des cultures. Eliade note aussi, ce que je crois indubitable, qu'il y a eu après le temps biblique une sorte de retour au temps circulaire mythico-rituel, que dans le christianisme tel qu'il s'est établi, dans les pays de l'Est européen ou même du Moyen-Orient, comme dans nos pays de l'Ouest européen, on est revenu au grand calendrier liturgique où les fêtes reviennent, où on évoque les récits sans trop s'intéresser à leur historicité ponctuelle, une fois pour toutes. L'idée même du sacrifice de la messe qui réactualise l'événement, qui le rend présent, correspond assez bien à cette mentalité mythique selon laquelle le rite rend présent l'événement qui ne passe pas. Il le reconnaît, mais il reconnaît en même temps le contraste avec la Bible elle-même. Et lui-même ne fait pas un jugement d'honneur. Il est issu du milieu orthodoxe roumain, et cette reprise des schémas de la religion mythique ne le gêne pas du tout, mais il l'a doté. Et je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant à observer. Alors, une raison seulement parmi beaucoup, de cette reprise, disons, j'essaie d'employer un mot qui ne soit pas automatiquement péjoratif, des schémas de la religion mythique et donc d'une vision de l'éternel retour, plutôt que la vision qui paraît proprement biblique, au premier abord au moins, ça a été l'influence du platonisme et du néoplatonisme de Plotin sur les pères de l'Église. Les pères de l'Église essayaient de comprendre la substance de la foi transmise dans les Écritures, ils essayaient de la présenter à leurs contemporains, de lui faire obtenir un jugement de respectabilité, alors qu'il y avait d'abord un mépris écrasant pour cette religion d'esclaves avec les choses absurdes qu'elle véhiculait. Et donc ils ont recouru à la philosophie qui était la philosophie dominante et la plus prestigieuse de leur temps, le platonisme, ou la forme de néo-platonisme. Il y a eu des éléments circonstanciels qui ont joué. L'un des tout premiers, Justin Martyr, au milieu du deuxième siècle, était un philosophe platonicien avant de se convertir. Le plus grand de toute cette première période a été Origène, qui a suivi les cours dans la même école, peut-être à la même époque, mais probablement pas, mais dans la même école, auprès du même maître que Plotin. Origène a été à l'école d'Ammonius Saccas, comme l'a été aussi Origène, comme l'a aussi été Plotin, je ne sais plus lequel des deux, je dis. Vous voyez ces points de contact. Et sous l'influence donc de ce platonisme dont ils se sont imbibés, ils ont eu tendance à penser selon le schème de circulaire. Origène a très expressément professé l'idée que la fin doit coïncider avec le commencement, que c'est la forme parfaite que Dieu donne à son œuvre, et donc que l'oméga fait revenir en alpha, qu'il y a donc cycle. C'est ce qui a conduit à lui attribuer, c'est un point qui est discuté, donc je vous signale, la doctrine du rétablissement de toutes les créatures, y compris le diable. Les vues d'Origène ont été condamnées par des conciles pour cette raison. Alors je dis qu'il y a débat parce que dans les œuvres d'Origène qui ont été conservées, c'est pas tout à fait net. Il peut d'ailleurs avoir varié d'une période à l'autre. On lui a attribué pas mal de choses, c'était aussi un très puissant génie. Une partie de son œuvre, d'ailleurs, ne nous est connue que par une traduction latine plus tardive. Et donc, on ne sait pas toujours exactement ce qu'il a vraiment pensé, lui. Mais, disons, dans le souvenir global, on a attaché à l'origénisme cette idée d'un salut universel par retour, au point de départ. Alors, Augustin vient, lui, plutôt à la fin, près de la fin de cette période de l'Antiquité chrétienne, païenne et plus chrétienne. Donc, Augustin, autour de 400, il se convertit avant, mais il va exercer son ministère jusqu'en 430, Origène fait la synthèse sur le temps et l'éternité. Il s'intéresse beaucoup à ce sujet, et on le considère encore aujourd'hui comme le premier très grand penseur sur le temps. Le texte le plus développé qu'il a produit se trouve dans son livre autobiographique, mais il a écrit assez jeune, appelé Les Confessions. Le mot confession a plutôt le sens de louange. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas des confessions du confessionnal. Il ne s'agit pas d'abord pour lui de dire ses péchés, il les dit aussi, mais c'est d'abord une sorte d'immense prière de louange, c'est adressé à Dieu du début à la fin, que ce livre, qui a un caractère autobiographique et qui a innové aussi de ce point de vue-là. Et alors le livre 11 est consacré à une réflexion sur le temps, où l'on trouve deux grands éléments. D'une part, l'affirmation de la notion d'éternité qui se trouve déjà chez Platon et chez Plotin, mais Augustin lui donne une précision et une sorte d'expression chrétienne, une très grande force, l'éternité pur présent qui ne passe pas, nous y reviendrons. Et d'autre part, alors, une analyse de ce qu'est le temps. Il arrive à la conclusion que le temps ne peut se loger que dans l'âme. Le temps n'existe pas à l'extérieur, le passé il n'est plus, non, il n'est pas là, le futur il n'est pas là. Où cette distinction, où cette triade du passé, du présent, futur peut-elle se loger? Il retourne la question et il arrive à la conclusion que c'est dans l'âme, que c'est une sorte de distension-extension de l'âme même du sujet humain. Il a un sens du sujet, du « je », qui est frémissant, qui est prémoderne. Il est beaucoup plus moderne que ceux qui sont venus après lui pendant pratiquement un millénaire. Il a un sens du sujet extraordinaire. Et il appelle « âme », donc ce qui est la réalité intérieure de ce sujet. Et il conclut que le temps se loge là, dans l'âme. Certains voient en lui vraiment le père de la conception dite subjectiviste du temps. Le temps ne serait pas dans les choses, mais en l'être humain. Alors, il faut peut-être un peu corriger l'impression donnée par cette formule. C'est ce que je veux dire en disant il promeut le sujet, mais dans un contexte cosmologique métaphysique. C'est-à-dire qu'il continue de concevoir la place du jeu humain en fonction de sa vision globale de la réalité, de Dieu, l'être même, éternel, immuable, pur présent, et puis du multiple qui procède de lui par degrés, et l'âme située dans ce schéma. Et l'âme jouant un rôle en quelque sorte intermédiaire dans une hiérarchie cosmique, une hiérarchie de l'être. Ce qui fait que ce n'est pas tout à fait le même subjectivisme que chez les modernes, où vous n'avez pas du tout une telle vision. Alors le Moyen-Âge s'est mis à l'école d'Augustin, dans tout le Moyen-Âge au moins, pour l'Occident, pour tout le monde latin. Le titre que l'on emploie, il suffit de le dire pour qu'on comprenne que c'est Augustin, c'est le maître, magister, c'est Augustin. Et sa notion de l'éternité, et du temps jusqu'à un certain point en tout cas, est adopté pratiquement par tout le Moyen-Âge. Un auteur qui s'appelle Boès, très intéressant à la fin de l'Antiquité, qui a un peu fait la charnière, surtout pour l'enseignement philosophique entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, a donné une définition de l'éternité qui est la suivante. C'est la possession parfaite et totalement simultanée de la vie interminable. La possession parfaite et totalement simultanée de la vie sans limite, interminable, interminabilis, hein, il emploie, il a donné en latin cette définition. Et cette définition, Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, la reprend, la défend contre des critiques, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, mais elle est augustinienne, elle est dans la ligne d'Augustin. La Renaissance et la Réforme se caractérisent par une valorisation toute nouvelle de l'histoire. Et les mots mêmes de Renaissance et de Réforme le montrent. Alors que pour les gens du Moyen-Âge, ils sont les modernes, mais ils sont au pied des anciens, ils ont recueilli, le temps qui passe n'est pas significatif. Il s'agit de maintenir la tradition reçue des anciens. Renaissance et Réforme marque le sens que des choses arrivent qui sont intéressantes, qui sont valorisantes. Il faut rompre avec toute une période antérieure, faire renaître la pensée de la Grèce ancienne pour les humanistes de la Renaissance, réformer tous les abus et toutes les déviations que le christianisme a connues par rapport à son origine. C'est la réforme, mais vous voyez, un sens nouveau de l'histoire, et donc une valorisation du temps intervient par les événements de la Renaissance et de la Réforme. Mais la notion d'éternité n'est pas touchée. À ma connaissance, au moins, il n'y a pas de renouvellement de la notion d'éternité. Elle est reprise par Luther, qui s'intéresse aussi beaucoup d'ailleurs au calcul de fin du monde. Hein. Ça joue un très très grand rôle pour Luther et pour beaucoup d'autres des réformateurs. Jean Calvin se caractérise, lui, à la deuxième génération, par sa sobriété. Il ne donne pas dans la fièvre apocalyptique. Il en dit très peu sur notre sujet. Et il reproche même à Augustin de s'en être tellement occupé. Il dit, dans son commentaire du Nouveau Testament, à un moment, qu'Augustin se tourmente merveilleusement pour savoir ce qu'est le temps, etc. Manifestement, Calvin trouve que Augustin s'est donné beaucoup de mal sans grande utilité. Il vaut mieux rester très sobrement près des textes. Mais il ne bouleverse pas la notion d'éternité. Elle paraît chez lui quand même encore admise. Alors c'est chez les modernes que les choses se modifient sensiblement. Le temps se trouve de plus en plus valorisé, et en particulier avec le thème de la révolution. On a pu remarquer que le monde même, la notion de révolution, change radicalement de caractère. Pour la pensée de type ancien, la révolution, c'est le cycle. On parle des révolutions des corps célestes. La révolution, c'est de revenir au point duquel on était parti. Alors qu'avec le thème révolutionnaire au XVIIIe siècle, la révolution apparaît au contraire comme la rupture avec le passé, l'ouverture d'un avenir neuf, une véritable recréation, et tout est nouveau, tout est neuf, et l'idéal va pouvoir être réalisé. Ce sens nouveau du temps est très très marqué. Et alors, en philosophie, cela s'accompagne de recherches extrêmement diverses. Je vous cite un certain nombre de noms de philosophes dans le paragraphe 2C2 du canevas. Je n'ai pas maintenant le temps d'en parler davantage. Je signale que le philosophe Paul Ricoeur, donc, que j'ai déjà mentionné, dans son livre « Temps et récits », que j'indique en bibliographie, donne un traitement extrêmement fin de... non pas de l'ensemble de ces philosophes absolument, mais de la plupart d'entre eux, avec une interprétation de leur débat qui est remarquable, en tout cas qui m'a beaucoup apporté. Et il a la sagesse, je dirais l'humilité, de ne pas conclure d'une manière triomphante. En fait, il conclut avec un certain point d'interrogation à la fin du troisième volume de Temps et Récits. Il ne traite pas de Bergson. Il nous a dit, parce qu'il était ici, donc au mois de mars, à la fin mars, pour notre colloque théologique, il nous a dit qu'il travaillait un livre sur la mémoire, donc qui concerne le temps, où il pensait faire justice à Bergson comme il ne l'avait pas fait au long de sa carrière jusqu'à présent, et ce livre devrait paraître à la rentrée, pratiquement. Il y aura encore autre chose qui viendra de lui. Chez les théologiens, j'ai déjà évoqué la position de Karl Barth, son collègue à l'université de Bâle, et qui enseignait aussi d'ailleurs à la faculté de théologie protestante de Paris, et à l'école pratique des hautes études, Oscar Kuhlmann, a fait une percée dans un sens opposé. Kuhlmann a critiqué la notion classique, a protesté contre l'idée de l'éternité comme un pur présent sans succession. Au nom de la Bible. Alors, ça a été quelque chose d'important et d'intéressant. Dans son livre, Christ et le temps, paru en traduction française en 47. Il a écrit d'abord en allemand, mais il enseignait aussi en français. Donc, il y a une version française qui a suivi la version allemande. Christ et le temps. Alors, ce livre est très imparfait à l'égard des méthodes employées, mais il est très intéressant. Il a remis en cause le règne de cette notion classique d'éternité, dont nous allons reparler. Et depuis, la situation est une situation assez désordonnée. Il y a des options assez diverses qui vont dans le sens de la version classique, mais à l'opposé aussi, très souvent, dans la situation contemporaine. Et notre effort sera de trouver une voie de sagesse parmi toutes celles qui s'offrent à nous dans la situation d'aujourd'hui. Voilà donc le survol que je voulais faire dans notre première séance. Alors, c'était un survol, donc ça donnait assez peu lieu à des questions, et puis nous manquions un peu de temps. Je signale que dans les sessions suivantes, j'espère que vous aurez vraiment la liberté de poser des questions, et que nous pourrons un peu plus dialoguer. Voilà, donc d'après l'horaire, c'est l'horaire habituel de la faculté, le repas est à 12h15, donc c'est maintenant que nous arrêtons et que nous reprenons à 14h30. Hein,